Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 110, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Patrick Miette, plus connu sous le pseudonyme mystérieux de Chandor Poche. De son propre aveu, Patrick n'est ni un sportif, ni même un cycliste. Mais apparemment, ça ne l'a pas empêché de faire 5 transcontinentales et une Silk Road. En revanche, Patrick adore passer du temps sur son vélo, partir à l'aventure dans une quête pratiquement mystique où la chasse aux vieux démons et le don de soi prennent le pas sur la performance athlétique, laquelle laisse Patrick totalement indifférent. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à l'incroyable newsletter hebdomadaire de Spotzol avec des tonnes d'infos utiles. J'ai également reconstruit un site, plus facile et commode d'accès, où seront agrégés les épisodes, mais également les newsletters, ainsi que des tests matos en profondeur. À venir donc, le test du fameux Niner MCR9 suspendu, ainsi que les sacoches de la série Racing de chez Apidura. J'ai également ressorti un vieux récit sur la vélocénie entre Paris et le Mont-Saint-Michel, idéal pour découvrir le bikepacking en douceur. Toutes ces infos sont dans la description de cet épisode et dans la newsletter, évidemment. Sans plus attendre, donc, Patrick Miette.
Patrick Miette,
allô.
Bonjour Richard Delhomme, vous allez bien ?
Bonjour, bien, et vous-même ?
Ah mais ça va très très bien et je vois qu'on a parfaitement réussi à faire comme si on s'était jamais parlé avant, donc c'est vraiment... Personne n'y verra que du feu, c'est impeccable, le flou est parfait, voilà.
et le vouvoiement de rigueur ?
Le vouvoiement est de rigueur parce que même si on s'est appelé moult fois pour des raisons de planning, malgré tout, on n'a pas encore eu le plaisir de rouler ensemble, donc à vélo on peut tutoyer qui on veut, mais tant qu'on ne se connaît pas, le vouvoiement est de rigueur et malgré tout, je vais vous demander l'autorisation de bien vouloir vous tutoyer avant de pouvoir admirer votre vénérable visage.
écoutez, je n'y vois aucun inconvénient, voire même je ne peux qu'abonder dans votre sens, alors on va dire tu.
Voilà, eh bien, et... Merci, déjà. Ceux qui maîtrisent Tintin auront reconnu une tirade dans le Lotus Bleu, quand Tintin reçoit un message, et l'auteur du message dit « Aurais-je l'honneur de voir votre vertueux visage ?» Parce que ça vient de je sais plus qui, un méchant en fait, qui s'avère être un méchant et qui lui fait croire qu'il est gentil. Mais de toute façon, le Lotus Bleu, c'est ça. C'est le japonais, j'ai oublié son nom...
Et oui, qui apparaît dans une espèce de télé, si je me souviens. Ouais.
Je te propose qu'on ne fasse pas un truc bêtement chronologique et autobiographique où je vais te demander qui tu es, machin, et ce que tu as fait. Je pense qu'au fur et à mesure de la conversation, ça va venir. Et voilà. Donc, sachant tout cela sur toi, je pense qu'on peut se permettre de s'émanciper un petit peu d'un modèle chronologique et un peu scolaire, des fois. Donc, ce que j'aimerais savoir en premier... Déjà, si tu es d'accord avec avec ce modèle.
Absolument.
Et là, le mec me dit non. Je serais bien embêté parce que je n'ai pas de plan de secours. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ton pseudo sur les divers réseaux sociaux est Chandor Poche et pas Patrick Miette.
Eh bien, en fait, il correspond en fait à mon second prénom, qui est donc mon héritage... maternel magyar, donc hongrois, et j'ai emprunté donc aussi le nom de famille de ma maman. Et tout ça, en fait, ça date du début des réseaux sociaux, surtout de Facebook, en fait.
Ouais.
Donc au moment où en fait on savait pas trop ce que c'était, donc je n'ai pas voulu mettre mon vrai nom, mon vrai prénom, j'avais mis, et puis voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et puis voilà, donc il y a plein de gens qui me connaissent mon nom comme ça. Enfin, j'ai pas changé depuis, et voilà, et ça correspond aussi à une époque de ma vie où j'ai multiplié un peu les pseudos quand j'étais en fait dans la musique, où j'avais plein de projets différents, et ça correspondait aussi à un projet. Mais celui-ci, au final, c'était un de mes derniers projets que j'ai donc finalement dédié à la bicyclette.
Donc Frank Black des Pixies, c'est toi?
Non du tout. Non, c'était... Non, moi, j'officie aux roues d'acier, comme on dit dans...
C'est la traduction. En un instant, dis-moi en plus, parce qu'avec un nom pareil.
Non, les roues d'acier, c'est une espèce phrase pour parler des tourne-disques, voilà, des roues d'acier. Puisque en fait, j'étais disque jockey pendant pas mal de temps.
Ah,
j'organisais des soirées, voilà. Donc on appelle ça les roues d'acier, the wheels of steel, comme disent les Anglais.
Oui. Bon, écoute, on va attaquer dans le vélo. Pour résumer, tu as fait plusieurs TCR, tu les as pratiquement toutes faites. Tu as également fait la première et unique édition de la Silk Road, Mountain Race.
Non, il y en a eu deux. Hein.
Il y en a eu deux ?
Moi, j'ai fait. Oui, il y en a eu deux, première. Moi, j'ai fait.
Ah oui.
Non, la deuxième.
D'accord.
Bon, la deuxième.
Autant pour moi, toutes mes excuses et condoléances.
Non, il n'y a pas de souci.
Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu te définis, pourquoi tu ne te définis pas comme un sportif ? Parce que la première fois que je t'ai contacté, tu m'as dit, je ne sais pas si c'est bien intéressant parce que je suis pas dans la performance, et ce à quoi je t'ai répondu, mais tu as forcément des trucs intéressants parce qu'avec 4 ou 5 TCR au compteur et une Silk Road, bon, hein. Et puis la notion de performance, elle concerne qu'une poignée de personnes, et à partir, en tout cas de performance dans le classement, mais à un moment donné dans le classement, la notion de performance s'efface et on glisse vers le challenge personnel. Et ça peut être aussi un challenge pour les premiers, mais c'est les deux se mélangent de manière un petit peu plus confuse. Mais par contre, tu m'as dit très clairement, de toute façon, moi, je suis pas un sportif. Dixit, le mec qui a fait 4 ou 5 TCR et une Silk Road. Là, j'ai besoin d'explications. en plus, tu es fier de ton petit mot d'esprit. Bravo.
Ouais. Non, mais enfin, je sais pas comment. Oui, je me considère pas comme un sportif dans le sens où oui, je consacre pas ma vie à ça. Je fais d'autres choses qui sont pas forcément compatibles, justement, d'ailleurs, avec la vie d'un sportif, puisque sportif. Alors, je suis pas forcément cycliste, mais on va dire un sportif. Voilà. Puisque je veux pas. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi dans le vélo. C'est ce que permet aussi le vélo, c'est d'avoir aussi une vie. Enfin, je sais pas. Comment dirais-je, tout à fait normal de pouvoir manger et boire avec les copains. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est pas négociable. Et parce que, enfin, pour moi, le sportif, il est aussi. Enfin voilà, il est un peu dans la. Il y a une espèce de notion. Un peu de compétition que moi je n'ai pas et qui m'intéresse pas, si ce n'est la compétition qui s'anime autour de moi-même, quoi, mais donc finalement pas grand monde. et puis même les chiffres qui sont censés pouvoir être une espèce de référentiel même vis-à-vis de moi-même, je les connais pas. Enfin, je sais juste que à ma première transcontinentale, je faisais à peine 250 km par jour, et que pour la dernière, j'étais pas loin des 350. Voilà, enfin, c'est juste en fait les chiffres que je peux retenir, mais Mais voilà, et donc enfin en ce sens oui les chiffres, enfin je les contemple une fois que la course est finie et que je me dis voilà, c'est pas possible, j'ai fait ça moi, j'ai fait 4000 km à vélo en 11 jours, 2 jours, 13 jours, enfin ça dépend et que je regarde mes moyennes, machin, mais bon, enfin après voilà, d'ailleurs ces chiffres, ils ont pas de sens pour moi finalement, donc je ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse avant toute chose c'est d'être sur mon vélo, avec mes sacoches, de me sentir libre. Et d'avancer, de découvrir des paysages, un virage de route, d'un chemin, et de revenir à quelque chose, enfin, de super, enfin, comment, primitif, de se déconnecter de cette vie de citadin que j'ai puisque je suis parisien et de redevenir un peu un animal voilà qui a besoin juste de manger, dormir, boire et puis avancer sur sa bicyclette quand il s'agit enfin quand je suis dessus quoi. Enfin d'ailleurs, il y a que sur le vélo que j'arrive à retrouver ce truc qui quand même finalement qui me recentre sur la l'humble personne que je peux être et que être humain je veux dire par là. Mais voilà, donc en ce sens je me sens pas sportif, éventuellement un peu aventurier, mais on va dire pas tant que ça, puisque je le fais dans des contextes souvent, enfin là on parle de courses auxquelles j'ai participé, donc c'est quand même assez encadré, mais bon, enfin ça reste quand même une aventure, hein, mais quand je vois des personnes qui font ça, enfin que ce soit en vélo ou à pied ou je sais pas, enfin n'importe, qui n'ont pas justement de cadre un peu pas un cadre légal, mais un cadre un peu d'une course où je me dis que bon, je suis pas si aventuré que ça non plus, mais bon, on va dire si je devais choisir entre les deux, oui, je suis plus un aventurier qu'un sportif.
Bon, tu me mets encore dans une position délicate, parce que j'avais pas l'intention d'être méchant aujourd'hui. Je suis de bonne humeur.
Bon,
mais il y a quand même, pas mon intention. Je décèle quand même une petite incohérence, voire même hypocrisie de ta part, parce que tu me dis, d'accord, je suis pas sportif, la performance, ça m'intéresse pas, mais tu prends part à des courses. Pourquoi ne pas partir à l'aventure, te dire, ok, je vais à Istanbul, à Sarajevo ou à Varanasi, à vélo, tu feras autant de bornes, tu seras tout aussi seul et livré à toi-même et face à toi-même. Pourquoi participer à des épreuves avec un début, une fin, une structure, des points de contrôle, des caméramans, des photographes?
Ouais, alors donc, on va dire, je le faisais donc avant ma première transcontinentale. Enfin, je l'ai fait de façon beaucoup plus, effectivement, déjà un peu moins extrême, hein, puisque enfin, je faisais ça en mode promenade. Et puis ça faisait pas non plus si longtemps que ça que je le faisais, puisque ouais, ça faisait juste quelques années. Mais en fait, la première transcontinentale, enfin j'ai découvert ça en fait sur le web, un peu peut-être comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Et c'était la première édition, je crois que c'était en 2013, un truc comme ça. Et donc il y avait cette carte avec ces blue dots là. J'ai suivi cette course comme ça depuis mon ordinateur. Et en fait, la couverture de la course se résumait à justement une page avec des gens qui interagissaient, mais souvent les gens qui interagissaient, c'était des coureurs eux-mêmes, qui étaient en train de se féliciter, s'encourager, machin, truc. Il y avait donc un truc, une espèce d'humilité qui m'a beaucoup plu, et puis surtout qu'en fait, que ce soit le premier qui arrive, alors je crois que c'était Christophe Alguer d'ailleurs, ou le dernier, en fait, je me suis aperçu, et le dernier qui est arrivé quasiment deux ou trois semaines après le premier, hein, qui était finalement félicité de la même façon. Et, enfin, je sais pas, il y avait un truc, voilà, qui était assez fascinant là-dedans. Et là-dessus, en fait, ouais, je me suis dit bah, que c'est, enfin, c'est un truc un peu qui me botte en fait. Et donc j'ai écrit au mail le générique de la course, et en fait c'est là que j'ai c'est Michael qui m'a répondu, et puis on a commencé en fait à se parler, et puis enfin de façon très voilà simple machin, et en fait j'ai bien accroché, et puis je me suis dit allez hop, je m'inscris, puis on verra bien. Puis de toute façon, enfin pour moi, ça relevait un peu quand même déjà d'un énorme défi, puisque au mieux j'avais fait 2000 kilomètres et là il s'agissait de 4000, donc avec un chronomètre, tout ça, donc c'était quand même complètement différent. Et voilà, donc et en fait les défis, enfin moi il était tout simple, il était c'était moi. Pas de parcours imposé, des points de passage obligatoires, et donc voilà, enfin moi c'est ce qui me plaît aussi, c'est que j'aime pas les choses imposées, enfin je veux bien avoir quelques contraintes, et puis d'ailleurs qui sont assez intéressantes, puisque avec même en ayant fait quatre transcontinentales qui toutes sont parties de Gramont, arrivées pour une fois donc à Istanbul, une deuxième fois en Turquie dans les Dardanelles et deux fois dans les Météores. Je n'ai jamais j'ai jamais eu le sentiment d'avoir fait la même chose. Donc ça c'était aussi très très important. Et quelque part donc en participant à cette première transcontinentale, je participais à un événement, mais je participais pas à une course. Et surtout avec des gens, enfin, dont je voyais, qui avaient une certaine unité, un truc, qui est pas pour moi de l'ordre de la compète. Et puis, y a un truc aussi qui est important avec ces choses-là, c'est que peut-être que en fait, je serais jamais allé à Istanbul, ni en Turquie, ni en Grèce avec mon vélo si je n'étais pas aligné sur ces courses. Et c'est un peu la même chose aussi avec le Kyrgyzstan d'ailleurs, la Silk Road. C'est-à-dire que c'est vraiment typiquement la Silk Road, c'est un truc sur lequel je m'étais dit. Bon, au Silk Road, je ferais jamais un truc pareil. Enfin, c'est pas que je ferais le Silk Road, j'irais moi au Kyrgyzstan faire du vélo, mais j'irais pour moi. Mais en fait, je me suis aussi rendu compte que c'est une espèce d'explication que je me donne depuis toujours. Oui, c'est pas grave, de toute façon, moi j'irai, j'ai pas besoin de participer. Mais en fait, la course, enfin, ou l'événement, en tout cas, moi c'est plutôt comme ça que je le conçois. C'est justement une occasion d'avoir une échéance, parce que on procrastine, enfin je suis un peu procrastinateur, comme je parle de moi là, voilà, tout simplement, et en fait on remet toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait enfin, que c'était une occasion à saisir, en fait, que d'aller faire cette course. Puis surtout, enfin moi, la Silk Road, là, c'est carrément, c'est un autre truc, là. C'est pas du tout la même chose que la transcontinentale. Là-bas, il y a pas de bitume, il y a pas de supermarché, il y a pas de resto, et il fait froid, il fait chaud, enfin là-bas les problèmes, il n'y a pas à boire, enfin c'est toute une logistique bien différente.
Mais, donc c'est un prétexte en fait à se déplacer, que même si tu te ressens une âme d'aventurier et non d'athlète, si on peut dire. S'il n'y avait pas ces échéances-là et ces microstructures dont tu sembles avoir besoin, bah tu resterais chez toi.
Oui. Enfin, je le fais pas, puisque après justement c'est que en fait c'est ça qui est aussi assez intéressant, enfin que ce soit avec la transcontinentale ou même enfin n'importe quelle échéance, c'est que voilà, quand on se fixe ces choses-là. Après, on vit avec cette chose-là, parce qu'en fait, on s'aligne pas sur une transcontinentale comme on s'aligne sur, je sais pas moi, une course lambda. Enfin, c'est quelque chose qui t'habite pour un moment. Enfin, déjà, l'inscription, elle se passe quasiment un an à l'avance. Tu vis avec ça, que ce soit le parcours pour la transcontinentale que tu dois travailler. Que ce soit la préparation physique, que ce soit ton vélo, tout ça, tu vis avec. C'est un truc, tu te défais pas comme ça. Enfin, tu sais, quand tu participes à plusieurs transcontinentales d'affilée comme ça, c'est une espèce de, c'est un rendez-vous que tu as avec toi-même tous les ans. Et donc c'est quelque chose bon, tout ça, c'est assez égocentré, en fait. Voilà, c'est, mais tu vis avec, quoi. Et donc, c'est en ça que, enfin, moi, c'est pour ça que j'y participe. Après, il y a un côté un peu plus personnel que j'ai d'ailleurs, écrit dans un article du magazine 200, il y a un truc beaucoup plus personnel, c'est en fait que cette histoire, ça m'a quand même rapproché de mon père, avec qui donc les relations sont un peu compliquées, mais je me rappellerai toujours de la première transcontinentale quand je suis revenu, que j'ai vu mes parents, qui ma mère qui m'a dit bah, ton père, en fait, il a quasiment pas dormi pendant tes 13 jours de course. Il était derrière son ordinateur, nuit et jour, à essayer de savoir ce que tu faisais, où t'étais, à traquer Google Street, les machins, ce que je faisais. Et ça m'a bouleversé. J'ai réussi à acquérir une espèce de reconnaissance. Après, évidemment, il a jamais su me dire que les choses directement, puisque je me rappellerai toujours ce qu'il m'a dit à ce moment-là, et en me disant que mon grand-père était un grand fan du Tour de France et il serait fier de moi, et j'en suis sûr qu'il est fier de toi, de ce que tu as fait. Mais lui, il a été incapable de me le dire. Mais bon, c'est pas grave. Il y a un truc vachement important qui s'est marqué à ce moment-là, et c'est un truc justement qui, en plus, par la suite, a fait que je ne pouvais plus abandonner cet événement, puisque c'était un rendez-vous que j'avais avec lui, même si c'était au travers lui de son écran et moi du tracker que j'avais sur mon vélo. Mais c'était important, quoi, de maintenir ce contact. Donc malheureusement, voilà, un peu, on a eu quelques différends avec la course. Bon, ça c'est pas, enfin bon, c'est pas des différends, mais voilà. J'ai rien à dire là-dessus, mais ouais, bon, il y a plus, j'ai eu la Silk Road, et puis là il y a plus grand chose à l'horizon avec ces histoires. Mais bon, voilà, enfin bon, tout ça pour dire que il y a quand même plusieurs raisons pour lesquelles je participe à ces choses-là. Voilà. Mais pour une partie donc aussi très, très personnelle. Voilà.
Ce que ça veut dire que tu as aussi choisi ce type d'épreuve pour obtenir la reconnaissance de ton père ?
L'origine, je ne...
Un gros truc pour lui dire « Hey, regarde, j'existe ».
Ou ouais, chose, mais en fait,
ça pouvait être autre chose.
Mais Mais ça, en fait, quand je l'ai fait pour la première fois, en fait, je savais pas. Il a fallu que je le fasse la première fois pour que ma mère me raconte, en fait, comment il avait vécu la course, quoi. Mais après, une fois que t'es pris là-dedans, comme je te dis, tu vis avec cette course, ou ce genre de course, en fait, hein. Après, ça peut être celle-là, comme d'autres, hein. Mais c'est un tel investissement que de toute façon et puis c'est aussi ce que j'ai souvent évoqué, c'est qu'en fait c'est la longue distance, c'est aussi, enfin c'est une espèce d'apprentissage d'une année sur l'autre, et en fait tu ne fais que, enfin t'avances dans ton process, mais tu vis avec, enfin tu peux pas te enfin, c'est un investissement, voilà, de vraiment de tous les jours, de chaque instant, quand tu vis avec ça, quoi. Et tu peux pas faire ça comme ça à brûle pour point, tiens, hop, allez, tiens, je vais faire une transcontinentale et puis voilà, quoi. Enfin, peut-être qu'il y en a qui sont capables de faire ça, mais pour moi, c'est pas comme ça. Que ce soit physiquement,
il y a beaucoup qui se disent, tiens, je vais aller faire la transcontinentale, pas de problème.
Ah, je sais pas, mais enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est pas comme ça. C'est un truc avec lequel j'ai vécu. Bon, je ne vis plus parce que c'est terminé. C'est pas terminé parce que voilà, il y a plus d'événements, mais c'est parce que voilà, et puis enfin voilà, et puis après bah il y a eu la Silk Road, et puis bah c'est très bien, enfin c'est autre chose, c'est encore plus extrême d'ailleurs, hein, pour quand même on va pas nier le truc, mais après ça aussi ça pose question d'ailleurs, le off-road, enfin le off-road un peu comme un peu engagé, enfin comme ce que peut être la Silk Road, c'est un peu, il y a une espèce de paradoxe quand même dans cette histoire, moi je trouve, mais enfin ça c'est aussi, encore une fois, tout ça n'engage que moi, hein, mais bon, quand on fait ce genre de course où donc en fait on est sur, enfin c'est du gravel, mais c'est du gravel très engagé, quoi, c'est du truc où en fait on passe du tout terrain, on peut le dire, ouais. En fait, en gros, tu passes tes journées sur le vélo, les yeux rivés au sol, alors que t'es quand même dans un des endroits, les plus beaux que j'ai pu voir de ma vie. Sauf que, voilà, pour apprécier le paysage, bah, t'es obligé de t'arrêter. Donc, bah, tu le fais évidemment. Et puis de toute façon, enfin, heureusement qu'il y a ces sections où t'es obligé de pousser ton vélo pour pouvoir apprécier le paysage d'ailleurs.
Je pense que ça a été mis là pour ça, c'est uniquement pour le tourisme, pour les points de
voilà.
vue, c'est pas fait pour vous embêter, hein. Nelson me l'aurait dit, hein. Ouais. Sympa comme mec.
Bah oui, très sympa. mais c'est pour ça qu'il nous fait pousser nos vélos d'ailleurs.
Exactement, par gentillesse. D'ailleurs, je pense que c'est son défaut. Il est trop gentil. Trop gentil avec vous.
Mais, ouais, voilà. En fait, j'ai trouvé que c'était. Il y avait une espèce de paradoxe, ouais. Parce qu'en fait, quand c'est. Enfin, voilà, on est obligé. Enfin, on peut pas quitter les yeux du sol, parce que voilà, à chaque instant il peut y avoir un caillou, un machin qui t'envoie au tapis, donc il faut vraiment pouvoir avoir les yeux rivés sur le sol, et parfois c'est un peu frustrant, moi je trouve. Donc ou alors il faut s'arrêter, mais bon, enfin tu vas pas t'arrêter alors que pour faire du tourisme, alors que tu es censé participer à une course. Donc voilà, il y a une espèce de contradiction.
En plus, ça te prive. Bon, après, ouais. Ça te prive un petit peu de ta psychanalyse gratuite, finalement.
T'es
concentré,
peu, ouais,
sur les cailloux et tu peux pas plonger au cœur de toi comme tu le ferais sur la route.
Ouais, voilà. Enfin, c'est deux. Vraiment, c'est complètement. C'est deux façons de voyager ouais complètement différente. Enfin, de voyager et cette espèce de challenge qui est quand même qui s'appelle enfin la course qui est là. Mais
Là, comme cette année, on n'a pas d'épreuve. Enfin, en tout cas, vous, les adeptes de très longue distance, de ce genre de truc comme ça, ou que tu ne veux plus participer à la TCR pour diverses raisons qui t'appartiennent. Comment tu gardes le contact avec ton père? Comment tu lui donnes rendez-vous si tu peux plus faire de trucs comme ça?
Ben, écoute.
Vous êtes obligé de vous appeler?
Mais pas tant que ça, ça nous a pas suffisamment enfin de toute façon c'est très compliqué les relations, enfin ma relation avec mon père, de toute façon ça nous a pas rapproché pour autant, on n'est pas en train de se parler pour autant, mais je le regrette. Après moi j'ai compris aussi certaines choses, je suis beaucoup plus serein par rapport à tout ça, mais j'attends effectivement, enfin, de pouvoir renouer avec un événement bientôt. Mais c'est pas pour tout de suite, d'après ce que j'ai compris. Et puis même, enfin, le travail là en ce moment m'accapare pas mal, donc trouver quelques semaines à consacrer à ça. Et surtout que le prochain truc que j'aimerais bien faire, c'est la Tour Divide, là, aux États-Unis. C'est quand même 4000 bornes en tout terrain, donc c'est pas deux semaines, c'est plutôt trois, à mon avis. Donc, faut du temps, quoi. Et faut pouvoir les trouver.
Et puis il faut la préparation aussi, parce que ça on va en parler un petit peu plus tard, mais se dire quelle qu'en soit la raison, je vais faire un truc de 4000 km, 2000, bah, ça s'improvise pas comme tu l'as dit, donc on ne s'y prend pas deux mois à l'avance, c'est une préparation de longue haleine, donc le temps de la compétition, c'est finalement le plus facile, et le plus difficile c'est la préparation qui est étalée sur plusieurs mois.
Et c'est plusieurs mois et puis même plusieurs années, parce qu'en fait, c'est ce que je disais aussi dans le magazine La 200, c'est qu'en fait, tu te prépares, d'une année sur l'autre, tu te prépares pour la prochaine. Enfin, tu tout ça en essayant de dire qu'un jour, je serai prêt, parce qu'en fait, je sais plus, enfin, m'avait demandé est-ce que je me sens prêt, mais je me sens jamais prêt. je me prépare. Voilà, du mieux que je peux. Mais être prêt à l'imprévu, c'est pas possible, quoi. Vu que c'est quand même l'essence même de cet événement, c'est l'imprévu. Donc bon, tu fais en sorte de préparer, mais d'être prêt, ça, je suis pas. Moi, je saurais pas dire un truc pareil, quoi. Et voilà, c'est pour ça que, d'une année sur l'autre, en fait, tu te prépares un peu mieux pour la prochaine. et que ce soit d'ailleurs physiquement, mais techniquement, que la bicyclette, le pactage, la planification de l'itinéraire pour une transcontinentale, et puis le côté un peu survie pour une Silk Road, parce que la Silk Road, tu passes quand même 1800 km dans des montagnes assez hostiles, même si c'est super joli. pour bouffer, boire, c'est quand même, ça relève de l'exploit parfois. Hein. Là où tu te prépares, c'est en ayant des trucs lyophilisés, des plats lyophilisés, des pastilles pour l'eau, et toutes ces choses-là. C'est beaucoup de préparation, hein. C'est beaucoup. Et puis une Silk Road, c'est pareil, tu peux te préparer autant que tu veux. Moi, c'était la première fois de ma vie que j'allais, à une altitude pareille. Je crois qu'il y avait quatre cols à 4000, dont un peu plus de 4000. 4000 mètres, c'est, je crois qu'on peut, enfin, il y a cette fameuse maladie d'altitude, là, le mal d'altitude. Et ça, c'est un truc, on peut être confronté à partir de, bon, après, ça dépend des gens, même. Mais, c'est un truc, tu peux te préparer autant que tu veux, ça prend les gens, que tu sois préparé ou pas, d'une façon assez aléatoire, j'ai l'impression. Même des gens super sportifs ou aguerris, parfois ils se font choper par ce truc-là et bon, bah, tu prépares et puis bah tu te retrouves et puis bah voilà bah tu et puis surtout que c'est un truc avec lequel il faut pas rigoler quoi. Ça peut être fatal et puis surtout il faut savoir lire en fait les signaux que t'envoies ton corps, ça aussi c'est un truc vachement important, savoir lire vraiment le, parce que aussi derrière tout ça dans ces expériences, bon, je vais peut-être pas vraiment parler, mais c'est quand même c'est apprendre à se connaître son corps. Et moi justement pour revenir à cette histoire de côté primitif que j'aime rechercher, c'est cette vie de citadin où en fait on n'est plus on n'a plus vraiment trop de référentiel organique, enfin puisque on n'a pas de, on vit dans des villes avec, enfin tout est, on bouffe à notre faim, enfin on a des supermarchés, des machins, des trucs, des bidules, mais on vit dans nos têtes, mais on vit plus dans nos corps quoi. Et ça c'est quelque chose aussi dont enfin j'avais vraiment besoin, c'est de me retrouver, de savoir de quoi j'étais fait, comment mon corps fonctionnait, qu'est-ce qui lui faisait du bien, qu'est-ce qui lui faisait pas du bien. Et puis quand on fait du sport, on sait tout de suite que ben voilà, un plat de frites, ben c'est genre la dernière chose à faire quand t'es en plein effort. Bon après quand t'as pas le choix, que t'as que ça à manger, bah tu prends hein, évidemment, parce que ça arrive aussi. ouais tout ça c'est super intéressant d'apprendre à se connaître.
Donc ça t'est venu à quel moment cette envie de savoir de quoi tu étais fait? Tu t'as passé combien de temps, ou alors pour tourner là, pour formuler différemment, tu t'as passé combien de temps, de combien d'années de ta vie à te complaire dans ce confort occidental et citadin? À quel moment tu t'es dit c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de...
Écoute, cette année j'ai fêté mes 50 ans. En gros, enfin, on va dire que c'était il y a une dizaine d'années, il y a 40 balais. Et sachant que on va dire, mon gamin, j'étais super actif, je faisais plein de trucs, du skate, du vélo, la planche à voile, machin. Et quand je suis débarqué dans la vie active, là il y a un peu, ça a été genre une espèce de tunnel, on va dire, de 20 à 40 ans où j'ai fait que bosser et où je me suis complètement oublié. Et à 40 ans, là, tu réalises que, ah bah ouais, mais en fait, je ne suis pas que dans ma tête, je suis aussi, j'ai un corps, quoi, qui existe. Et alors là, je sais pas, après, est-ce qu'il y a eu, il y a eu plusieurs petites choses, mais bon, après, ça, c'est un peu complexe à expliquer comme ça en quelques phrases, mais on va dire, oui, à la quarantaine, c'est là où je me suis un peu, remis dans cette quête, oui, de savoir un peu de quoi j'étais fait.
On pourrait croire à prime abord que c'est une quête totalement égoïste. Mais il y a aussi, alors il y a de ça, évidemment, bien entendu. Mais quand même, je reviens sur la TCR, tu l'as fait aussi pour une cause. Donc c'était pas non plus que pour toi et comme tu m'as dit tout à l'heure au téléphone, se regarder au fond du slip. Je t'avais promis que je la ressortirais. Voilà, c'est chose faite. T'as aussi œuvré pour une bonne œuvre. Donc ça, tu peux m'en parler un petit peu plus. C'était pas que pour te.
Ah, bien sûr, oui, oui, oui. Ah, bah oui, bah j'ai, oui, carrément, oui, j'ai été. Enfin, je l'ai fait une année, hein. La dernière d'ailleurs.
Oui, mais non, tu l'as fait quand même.
L'avant-dernière. Oui, je l'ai faite, oui. Bah, j'étais, en fait. Je l'ai fait pour, mais surtout parce que, en fait, j'ai été bouleversé. J'ai rencontré ces gamins par le biais d'une association qui s'appelle Après la pluie, qui en fait s'occupe de divertir des enfants qui sont longuement hospitalisés, en général pour des raisons assez graves, et pour la plupart des questions, enfin des histoires de cancer. Et j'étais donc vraiment bouleversé. J'étais, mais comment moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Comment moi je peux aider? Et c'est là que je me suis dit, ben pourquoi pas justement dédier une transcontinentale, enfin leur dédier une transcontinentale et faire une espèce de course au kilomètre. Et c'est là donc que j'ai proposé ça à l'association d'organiser une espèce d'événement autour de la transcontinentale pour faire une espèce de course au kilomètre. Et voilà, et donc l'idée, donc voilà, il y a 4000 kilomètres, 1 euro du kilomètre, et voilà, ils ont donc tout le monde a relié le projet via ses réseaux, ses machins. Donc bon, on n'a pas atteint les 4000 euros des 4000 kilomètres de la transcontinentale, mais on n'était pas très loin. Et voilà, donc donc c'était un peu ma participation. Oui, c'est vrai. Enfin, après, je sais pas comment mettre. Enfin, pour moi, c'est deux choses différentes. Même si c'est un côté très égocentré, tout ça. Si mon aventure peut servir aussi à des causes comme celle-ci, je le fais avec plaisir. Voilà. Et ça m'a pas coûté énormément, bien au contraire, ça m'a apporté quelque chose de très important. Enfin, de rencontrer ces gamins, ça m'a bouleversé. Un gamin de 10 ans. Qu'est-ce qui t'a bouleversé ? On ne peut pas dire qu'on ait beaucoup échangé, puisque c'est des enfants de 10 ans, mais le regard d'un gamin de 10 ans qui est atteint d'une maladie grave, j'avais l'impression d'être, c'est pas moi, si lui était un gamin, moi j'étais un nouveau-né, quoi. J'avais l'impression que lui il avait tout compris, hein. Moi j'étais juste. C'est assez mystique, hein, ce que je raconte, mais c'est des ressentis qui bouleversent, voilà. Voilà. Donc je suis ravi d'avoir pu faire ça. Et si je dois le refaire, je le ferai avec plaisir.
Pourquoi tu t'es senti comme un nouveau-né? Qu'est-ce qui t'ont appris finalement? Parce que si tu me dis un gamin de 10 ans a tout compris et moi je me sens comme un nouveau-né compas à côté d'eux, alors que tu avais, disons, 45 ans et que tu t'apprêtais à aller faire une TCR et que tu en avais fait plusieurs, qu'est-ce qui t'ont appris qui t'a permis de relativiser ce que tu allais faire, si on peut parler de relativiser?
Déjà aussi, on a discuté, tu sais, de choses, enfin, de très banales, hein, entre nous. On va pas parler de choses très philosophiques, mais ce sont des ressentis, ce sont des regards, des attitudes, des gestes de gamins qui ont 10 ans et qui pour moi je parle d'âge, mais si ça se trouve c'est l'âge, mais c'est juste une espèce de maturité de gamins qui savent que des choses que moi je ne sais pas mais peut-être que c'est aussi un peu eux aussi, grâce à eux, que j'ai réussi à surmonter pendant cette transcontinentale un problème qui était quand même assez colossal pour moi, parce que c'est la fois, c'est l'année où j'avais tout connement changé mes pédales peut-être 2 semaines avant le début de la course. Sans comprendre vraiment que ces nouvelles pédales avaient changé un peu ma position sur le vélo, ce qui a occasionné dans les premières 24 heures une espèce de douleur au genou, mais comme jamais j'avais ressenti, et j'étais à 2 doigts de l'abandon, et je me rappelle toujours, je pensais encore que je pouvais pas, je voulais pas abandonner pour moi, mais il n'était pas question, je crois que j'en étais à ma 3e transcontinentale, j'allais pas abandonner une transcontinentale, justement, alors que pour une fois en plus il y avait vraiment, il y avait des gens derrière moi, il y avait toute ma famille, tous mes amis, machin, mais il y avait une association, il y avait des gamins qui étaient là, qui attendaient quelque chose de moi. Donc je sais qu'ils m'ont aussi transporté dans cette histoire. Et c'est une douleur dont j'ai compris les causes que je les ai pas comprises tout de suite, donc il m'a fallu un petit peu de temps, mais une fois que j'ai compris, après j'ai réglé ce problème de réglage et puis c'était parti, mais c'était très très dur au début, quoi. Parce qu'une douleur au genou, quand on fait à l'époque, c'est toujours comme ça, mais on partait de Gramont à 10h du soir, et le lendemain, à 10h du soir jusqu'à minuit, on est encore en train de pédaler sans avoir dormi, et ça fait quand même plus de 24 heures sur un vélo. Quand on a une pédale mal réglée, c'est sans appel, là. Et puis ça vient tout d'un petit à petit, puis une fois que c'est là, pour l'enlever, c'est notre paire de manches. tout ça pour dire que ils m'ont transporté, parce que j'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner là.
Et qu'est-ce qui t'a conservé à 2 doigts d'un moment donné? Parce que toi, t'avais mal au genou, mais eux, ils avaient certainement mal partout. Et on meurt rarement d'une tendinite au genou.
C'est un peu, tu viens de le dire un peu, je dis, mais voilà. Eux, ils sont peut-être... Allô? Tu m'entends pas?
Je me dis mince parce que j'ai foiré ta réponse.
Ah oui? Oui, non, ma réponse, tu l'as dite, quoi. Qu'est-ce que c'est que mon... je sais pas si c'est une tendinite ou au genou, je sais pas ce que c'était d'ailleurs, mais... Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ces gamins qui vivent des choses bien plus graves que moi sur mon vélo, et puis moi qui suis sur mon vélo là libre, et eux qui sont pour certains vissés à des soins qui font qu'ils sont hospitalisés parfois pendant des semaines. Enfin, c'est terrible. Donc et puis surtout, c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. C'est mon initiative. C'était pour moi mais inconcevable que je lâche l'affaire pour cette histoire. Donc voilà. Mais après, voilà, c'était aussi sur le moment, je ne savais pas ce qui se passait. C'est ça. J'en parle à posteriori. Mais sur le moment, quand cette douleur elle arrive, je la comprends pas. Je fais pas tout de suite la relation entre cette pédale, enfin ces pédales que j'ai changées. C'est juste tout ça, ça prend du temps. Ça prend des heures, voire même une journée. Enfin, le temps de comprendre. Enfin, moi, de toute façon, à un moment donné, de toute façon, je pouvais même plus pédaler tellement j'avais mal. Donc, je me rappelle, reste dans la ville de Tonnerre et tout ça s'est passé. En allant à l'hôpital d'ailleurs, où je au service d'urgence avec un médecin à qui je raconte mon histoire et qui me dit bah monsieur, c'est de 24 heures, vous êtes sur le vélo, bah vous allez arrêter tout de suite et puis vous aurez plus mal aux genoux. Ah mais oui là monsieur, mais non là c'est pas ce que je suis venu chercher.
Il a même pas voulu m'examiner d'ailleurs.
Bah oui, ouais.
Ça ouais surtout qu'en plus. Alors, l'épilogue de cette anecdote.
Eh bien, je sors de service d'urgence, je suis un peu furieux, je me pose, j'essaye d'avancer mais j'y arrive plus, donc machin, et là tout d'un coup, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, et puis c'est là que je comprends qu'en fait c'est histoire de pédale. Et là, tu prends tes outils, puis tu vois un peu ce qui se passe et puis tu règles, tu changes un peu la position, toc, toc, toc. Et en fait, une fois que la douleur est installée, le coup de pédale, en fait, tu sais tout de suite si il te fait mal ou pas, ou un peu moins mal. Donc je l'ai cherché au bout de quelques réglages, quelques arrêts à régler les pédales, je l'ai trouvé, quoi. Et après, j'ai pris des cachetons, histoire de pouvoir supporter, parce que la Lula s'en va pas non plus comme ça. Et voilà, c'était parti. Et après, c'était parti, voilà.
C'est ce que tu étais venu chercher quand même.
D'avoir mal.
De ressentir ton corps et d'arrêter de vivre dans ta tête.
Eh bien, oui, absolument. Oui, c'est absolument, ça fait partie du processus. L'expérience douloureuse, apprendre à savoir ce qui te fait du bien, ce que tu manges, qu'est-ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien. Pareil pour la boisson. Pendant des années, j'étais persuadé que l'eau ferrugineuse, c'est Fernand Reynaud, c'est ça, était l'eau qui me désaltérait le plus. Bon, en fait, pas du tout. C'est la pire. Non, il n'y a que l'eau, et qu'elle soit température fraîche ou ambiante, voire même chaude, elle désaltère. Toutes ces expériences sont bon. Après le lot de souffrance sur un vélo aussi, que ce soit les muscles, le cul, les mains, parce qu'à rester comme ça pendant des heures, après, même quand on a des barres, on a forcément donné des fourmis, des machins, ça c'est, puisque en fait, on parle quand même sur ces histoires-là, enfin, sur ce genre d'événements, on est quand même quasiment, bon après, je sais pas pour les autres, mais enfin, pas qu'il nous est entre 15 et 20 heures sur la bicyclette, hein, ça fait beaucoup. Donc, il faut être dans la bonne position, ça se gère, quoi, tout ça.
Je te l'ai dit tout à l'heure au téléphone, j'ai regardé le film On Board the Transcontinental de Antonin, dont le nom complet m'échappe. Il y a un passage...
Michel Soray.
Voilà. avec qui je ferai un épisode prochainement, d'ailleurs. Il y a un truc qui m'a fait... sourire, en tout cas, qui m'a fait vraiment plaisir. c'est quand on voit Stéphane Ouaja en haut d'un chemin, enfin d'une route terreuse, donc gravel, si on peut dire. Ouais. Et il se plaint qu'il a fallu pousser, qu'il a fallu 3 heures pour monter et que là, s'ensuit une longue descente, une énorme galère. Et tu te souviens de ce passage, je suppose ?
Ah oui, c'est en Bosnie, très bien. Ouais.
Oui, la Bosnie, il me semble que la Bosnie, c'est 70% du réseau routier qui est non bitumé. Je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas complètement sûr de mon chemin. Mais il me semble avoir pris l'unique tronçon d'autoroute qui fait 25 km. Et y a, c'est essentiellement du chemin. Et ma voiture de l'époque, ma Polo, ne s'en est jamais remise. En plus, il faisait une chaleur à crever, donc on a roulé avec les fenêtres ouvertes. Et jusqu'à 3 ans, quand je l'ai vendue, quand je m'en suis séparé pour une autre, il y avait encore de la poussière de Bosnie, alors que c'était 6 ans avant, je crois.
Ah, la Bosnie, ça rigole pas. Hein. entre la route, la météo.
Les mines.
Ouais. Et les mines, ouais, bon, ça sort, on n'y a pas eu. On n'a pas roulé dans les. Si tu quittes la route, oui, tu peux peut-être apprendre des risques.
Tu peux pas t'arrêter n'importe où. Tu peux pas faire de camping sauvage. Ouais. Tu peux rien faire parce que je crois que là, c'est encore. Ouais. Je dirais une bêtise en donnant un pourcentage, mais sur entre 60 et 80% du territoire qui est encore truffé de mines, et on peut pas s'arrêter.
Oui, ça dépend des endroits. Enfin, on va dire que là où il y a eu, c'est pas partout comme ça, mais oui, ça comporte des risques. Mais là où on était là, à Ilman, je crois, là-bas, il n'y a pas trop. Enfin, tout ça, c'était diminué puisque c'est quand même un resort de ski. Là. Ils font du ski l'hiver là-bas. Ça c'était un passage un peu. Oui. Bon, après, sur une transcontinentale, j'ai toujours un peu du mal à. Capter pourquoi, enfin si je sais pourquoi ils font ça, mais
pour vous embêter, pour pas le dire autrement.
Ouais, enfin bon, c'est aussi pour, à mon avis, pour faire des belles images, hein. Et puis c'est sûr que ça en fait des très belles. D'ailleurs, mon intervention dans le film, c'est là-bas, c'est après la descente, enfin la montée puis la descente, puisqu'en fait on fait un aller-retour. De ce point, et je me rappelle, je suis tombé 3 fois d'ailleurs en descendant, et il me semble que ça se voit même sur mon jersey qui est censé être noir et qui est un peu gris avec des traces de mains.
Je vais vérifier tout à l'heure. Et ce qui me fait plaisir en fait, c'est que tu sais, encore aujourd'hui même les détracteurs du gravel disent « Ouais, mais on a toujours fait ça, on montait le col du Parpaillon, ça existe depuis des années, c'est du marketing, les marques essayent de nous vendre des vélos. » Oui, c'est vrai, ils ont entièrement raison. Monter des cols muletiers avec un vélo de route, oui, ça s'est toujours fait, il n'y a aucun problème. Mais on parle vraiment de la descente. Et là, on voit dans le film, justement, qu'il y a eu 3 heures de montée et 1 heure de descente parce que ça n'avance pas à cause du chemin qui est comme il est avec un vélo de route. Mais ce qu'il faudrait expliquer, enfin en tout cas montrer davantage, c'est que certes, on a toujours monté des cols multiers avec des vélos, mais que la descente est une grosse galère. Et que ce qu'apporte aujourd'hui le gravel et donc cette évolution de la technologie et du cycle et de l'utilisation qu'on peut avoir d'un vélo permet de descendre à tombeau ouvert sans prendre de risque. Monter, c'est pas un
moins, je dirais moins de risques, mais
le risque zéro n'existe jamais. Ouais. Quand tu débarroules avec des pneus de 45 ou 40, c'est quand même plus aisé qu'avec des 25-28.
Les 25-28 qui sont gonflés à 6 bars ou je sais pas combien, ou 8. Enfin, c'est un bout de bois dans du gravier, tu tiens pas. Hein. Ouais. Donc effectivement, plus t'as de la grosse section, un peu moins gonflée, tu t'accroches beaucoup mieux. Donc et ça effectivement avec un vélo de route, tu peux pas. Donc, d'ailleurs, moi, j'étais, quand je suis passé là-dedans, j'étais en 28, moi. Mais, c'est pour ça que je suis tombé. Hein, je suis tombé, je me suis pas fait mal, mais bon, ça fait toujours un peu bizarre.
Oui, oui, l'adhérence de ripper, comme on dit, c'est jamais présent. Mmh. Puis en plus, t'as sali ton maillot, tu n'avais certainement déjà pas besoin de ça.
Ouais.
Comment tu t'es dit, tiens, la route c'est sympa, mais je vais aller m'emmancher sur le tout-terrain et je vais aller m'emmancher dans un truc très très difficile comme la Silk Road, parce que tu aurais pu faire quelque chose de plus accessible. Peut-être qu'à cette époque, il n'y avait pas la pléthore d'événements off-road qu'il y a aujourd'hui. Tu notes que je parle plus de gravel, mais je parle bel et bien de off-road.
Parce
que la limite pour nous en Europe est vraiment trop difficile à discerner. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du Tour Divide. Il me semble que c'est quand même relativement roulant, à part quelques secteurs qui cognent, mais ça passe, c'est relativement roulant, quoi. Donc, il n'y a pas de gros passages techniques. Mais sur une Silk Road, c'est autre chose. Et ce qu'on peut voir, les épreuves qui étaient dites gravel en France ne le sont pas vraiment. C'est off-road avec ce que ça comporte de cailloux, chemin, de franchissement, de notions de confort. Ça change un peu la donne. Donc maintenant, je parlerai de off-road de plus en plus.
C'est vrai que j'ai quand même été un peu surpris de ce que j'ai vécu au Kyrgyzstan pour la Silk Road. Je pensais pas, enfin il y a des passages quand même, c'est carrément c'est absolument pas roulant, mais voire même c'est au point où tu as ton vélo, tu le portes et d'un côté, et puis avec l'autre bras tu te tiens, hein, parce que c'est carrément, je sais plus comment j'appelais, cyclo-alpinisme, enfin tu sais, c'est vraiment il y a des passages, c'est même un peu chaud, quoi. Donc c'est ça, c'est carrément, bon, ça c'est extrême, mais dans la grande partie du parcours ça secoue quand même beaucoup. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, si je devais le refaire, je changerais de vélo. Parce que vraiment, pour ce genre de truc, il faut être suspendu, quoi. Je ne me poserai pas la question, là. Il faut, parce que encore, on va dire, passer une journée à se faire secouer comme ça, ça va. Mais là, c'est pas une journée, c'est 10 jours à se faire secouer. Et en fait, deux jours, t'es à la tête, enfin, qui c'est t'es un espèce de punching ball, quoi. Sur les bras, les machins, c'est. Donc, vraiment, si je devais refaire un truc comme ça, je me suspendrais.
On est arrivé à la même conclusion avec Stéphane de sa propre pratique et d'observer ce qui s'est passé cette année. On voit que sur les épreuves off-road longues, il y a de plus en plus de tout suspendu. Et c'est parfaitement logique. Et je t'en avais parlé l'autre fois. Actuellement, je fais un test du Niner suspendu, le MCR9. Mm-hmm. Et je sais que ça fait grincer des dents, que ça déchaîne les passions, parce que beaucoup disent « mais c'est plus du gravel, c'est du VTT ». Déjà, il faudra commencer par définir ce que c'est du VTT. Et puis ça revient à dire qu'un VTT c'est un VTT, qu'un gravel c'est un gravel, qu'une voiture c'est une voiture, et qu'une guitare c'est une guitare. Or tu fais pas, si on prend l'exemple de la guitare, tu prends pas la même guitare selon le genre de musique que tu vas jouer. Tu prendras pas la guitare de Eric Clapton pour faire du black metal. Tu prendras pas une Dacia pour faire le tour de le Paris-Dakar. Et ce qui veut dire que le VTT, c'est pareil. Il y a plein de VTT. Ça peut être de la descente, de la rando peinard, du cross-country, du cross-country semi-rigide, du cross-country tout suspendu. Et avant de dire c'est du VTT, mais de quoi on parle ? Et le gravel, c'est pareil. Si on doit aller s'emmancher sur une épreuve de plusieurs jours qui va tabasser, la question va se poser très sérieusement. Maintenant, de plus en plus, je pense, pour beaucoup. Est-ce que je prends un VTT tout suspendu ou un gravel tout suspendu ? Alors, il n'y a pas pléthore d'offres en gravel tout suspendu. Il n'y a que le Niner, le Canon Dals, le Topstone qui est vaguement suspendu à l'arrière. Et puis, Et puis peut-être un BMC avec un bloc élastomère à l'arrière, mais ça n'a quand même pas du tout le même impact.
Pas tout de même.
Et quand on parle de suspension, pareil, une voiture aussi a des suspensions, mais une voiture qui a des suspensions, c'est pas fait pour amortir des gros. C'est pas shérif, fais-moi peur, tu vois. C'est pour l'adhérence, c'est pour le confort. Et sur un gravel, c'est la même chose. On parle pas de l'adhérence, on parle pas du confort, on parle que d'absorber des chocs, mais on n'a pas de ça en gravel. C'est de la filtration sur le très long pour accumuler le jour. Et c'est de l'adhérence quand c'est mouillé, quand ça monte, pour que le vélo en fait se déplace d'une manière beaucoup plus linéaire plutôt que de rebondir d'un obstacle à l'autre. Ça amène du confort et ça amène également plus de facilité à pédaler. Parce qu'on ne se fait pas secouer, on peut rester en place sur la selle, donc la position ne bouge pas. Et là, c'est un piège à con parce qu'on se dit ça passe, donc je peux appuyer. Et puis en haut de la côte, tu te retrouves complètement dans le rouge parce que tu es suspendu. Alors que sans suspension, on aurait slalomé, on se serait fait secouer. Et c'est pas le même rouge en fait. Mais,
Mais après, il y a des suspensions que tu peux mettre on et off.
Moi, c'est un truc. Ça dépend des vélos en fait. Mais oui.
Enfin, moi, si je dois en faire un, ça serait un truc comme ça, oui.
Ouais. Ça serait quoi l'épreuve? À part le Tour Divide qui nécessite qu'un semi-rigide, qu'est-ce qui te ferait vraiment fantasmer? L'Atlas, peut-être?
L'Atlas Mountain? Ça a l'air somptueux. Après, moi, ce que je trouve, c'est que c'est peut-être un peu court pour moi. Ça fait combien de kilomètres, ça, déjà?
1200, je crois.
Ça commence à être c'est limite, voilà. C'est pas assez long.
Notez bien, alors à tous ceux qui écoutent, notez bien les paroles d'un non sportif. 1200 km, c'est fouet. Je sais pas si je me déplacerai pour 1200 km. Ça fait un peu débutant quand même.
je l'ai pas dit comme ça.
J'extrapole peut-être légèrement.
Mais c'est juste que c'est trop court en fait. Mais enfin, ça commence à être intéressant pour moi.
Au niveau de la quête personnelle ou simplement en fonction de tes capacités physiques, où tu commences à
Déjà, moi, pour me mettre dedans, il me faut quelques jours, donc. C'est quand même, je me rappelle plus trop, mais c'est quand même, il y a quand même des parties assez roulantes, ou enfin je sais plus en fait, il faut que ça aille au-delà de la semaine, il faut que ça fasse au moins 8 jours, quoi. Si, moins de 8 jours, moi ça m'intéresse pas, quoi.
Il me faut quelques jours pour mettre dedans. Ça veut dire quoi? Au niveau physique, au niveau mental? Ça veut dire quoi?
Tout. Enfin, il faut que je. Ouais, il y a une. La machine pour la mettre en route, pour ça, enfin, se apprivoiser un peu. Enfin, pour vraiment, je sais pas, là, quand tu débarques au Kyrgyzstan, tu es tellement dépaysé, enfin, il y a tout un ensemble de choses, une langue, des gens, des paysages, des nourritures, machin, il y a tout un tas de choses qu'il faut, ça prend du temps. Je suppose que si ça devait être au Maroc, c'est pareil, ces choses-là prennent du temps, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que la longue distance, voilà, c'est tout ça. Les choses prennent du temps et c'est pas des choses immédiates. Contrairement à cette vie qu'on a aujourd'hui, on a tout en trois, au bout d'un clic. Là, non, les choses, quelque part, se vivent et pour les vivre, il faut du temps. C'est la contemplation. La contemplation, ça prend, voilà, pour s'imprégner des choses, ça prend du temps. Voilà. C'est pas trois clics. Ça prend du temps. Et ce temps, moi, j'en ai besoin pour voilà, pour moi aussi effectivement passer dans la phase thérapie et ça ça se fait pas rapidement quoi.
Alors du coup je reviens sur une question précédente, pourquoi ne pas partir tout seul, là il n'y a pas de course, d'accord, pourquoi tu ne trouverais pas un truc? Tu te dis on peut pas aller à l'étranger nécessairement, ou en tout cas pas dans des pays franchement exotiques. Mais
je l'ai fait là. Bah, j'ai fait deux traversées d'Espagne là, fin de l'été, puis juste avant Noël. Je me suis fait en plein confinement, c'est pas grave, on dira rien à personne, mais je me fais mes trucs, mais voilà, c'est autre chose. Là, je prends mon vélo et parce qu'en fait, c'est surtout ça que moi qui m'anime dans cette histoire de vélo, c'est le voyage à vélo qui moi me la liberté, c'est être sur mon vélo avec mes sacoches, avec et voilà, besoin de rien, juste de trouver de quoi boire, de quoi manger, et puis voilà, je ne demande rien à personne.
Devenir un animal.
Voilà, c'est ça.
Oui. Si tu devais te réincarner en animal, tu voudrais être lequel?
Quel animal?
Ouais.
Oula.
Une truite?
Alors, comment?
Une truite? Un ours? Un facochère?
Alors l'ours, ouais, peut-être, oui, ça me pourrait bien me correspondre, mais sinon moi alors j'apprécie certains animaux, mais peut-être que j'aimerais pas, mais j'aime bien le cochon, j'aime bien les singes, mais je pense que l'animal qui me correspond plus, c'est peut-être l'ours, ouais. Sa pilosité.
Ouais, alors ça se voit dans le sujet de tout le sport dont on parlait tout à l'heure. Ça se voit que t'as un système pileux bien développé. Alors, juste pour faire la transition, ce que j'ai apprécié, mais ça je te l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que tu te définis pas comme un cycliste. Et dans ce sujet, donc dans tout le sport que je mettrai dans la newsletter, etc., pour que tout le monde le voie, il est sur Vimeo. Je crois que c'est toi qui l'avais mis en ligne. On te voit et on. T'as pas une silhouette d'athlète?
Ouais.
Et ça renforce l'admiration que j'ai pour ce que tu fais, les raisons pour lesquelles je fais. Et il y a une autre raison qui me plaît énormément, c'est que tu m'as dit je ne connais rien au vélo. Et tu m'as avoué avoir découvert le Tour de France très récemment à cause de ton travail. Donc tu es chef monteur à France Télévisions. Et je trouve assez fabuleux que tu sois pas immergé dans cette culture cycliste, malgré que tu fasses des trucs extrêmement cyclistes, mais sans avoir toutes les références culturelles liées au vélo. Donc t'es pas fan de telle ou telle équipe, tu regardes pas toutes les courses passionnément à la télé, tu vois pas le nom des coureurs, tu connais rien en fait. Tu connais rien au vélo, à part pédaler.
Non.
Je trouve ça assez génial quand même.
Non, je connais rien.
Voilà. Enfin, maintenant, tu sais qu'il faut régler ses pédales, c'est déjà un bon début.
Ouais. Bon, enfin ça, oui, enfin ça, je savais quand même un petit peu, mais non, enfin on va dire oui, toutes ces ouais cette culture vélo là, du club, du peloton, du machin. Ah oui, alors si j'ai roulé une fois en peloton.
Oula.
Bon, c'était super utile d'ailleurs, parce que j'ai compris en fait le phénomène de l'aspiration, que j'avais pas du tout expérimenté, puis surtout enfin apprécié quoi, mais c'est assez fou ouais. Mais je connais Bernard Hinault, voilà, parce que c'est ma génération. Et voilà, et plutôt, enfin, j'ai découvert ce que c'était que le Tour de France, vraiment, pas l'année dernière, parce que j'ai suivi pour le boulot. Mais je, ouais, les, toutes les stratégies de, d'équipe, de machin, de je ne savais pas du tout. Non, non, je ne connaissais pas.
Ça veut dire que, après, ça veut dire que tu es sur un vélo, que les gars du Tour ou les ou, qu'on a un vélo, quel que soit le modèle, ou, mais qu'on finalement on fait pas le même sport.
Ah bah non, moi je, pour moi en fait le.
On l'utilise pas de la même manière.
Non, le vélo, enfin vraiment, je pense que chacun. D'ailleurs, je pense que chacun a son. Moi, j'appelle ça des chapelles, on va dire. Chacun a fait. Enfin, mon vélo à moi, il est. Enfin, la façon dont j'apprends le vélo, il est différent de n'importe. Enfin, voilà. Enfin, en fait, c'est un moyen. C'est pas une finalité le vélo. C'est ce que t'en fais. Qui est important. Il y a des gens pour qui c'est un mode de vie, et d'autres c'est pour qui c'est la compète, mais pour qui c'est et puis même dans la compétition il y a plein de chapelles différentes. Il y a celui qui fait du vélo taf, mais qui finalement fait pas de vélo, qui fait que ça. Enfin, surtout que il y en a de plus en plus, des gens comme ça vu l'essor du vélo. Mais voilà, et puis chacun il trouve et il met ce qu'il veut dedans. Voilà, moi c'est on va dire c'est dans la partie voyage à vélo et que je me trouve et après et j'ai ma façon à moi de voir la chose et qui est assez évolutive d'ailleurs puisque évidemment je suis pas arrêté et voilà pour avoir été sur la route j'ai fait du off-road je continuerai parce que c'est quand même c'est assez jouissif de se retrouver dans des endroits magnifiques sans une voiture tout seul et ça a pas de prix donc et surtout tout seul en autonomie sans besoin de rien quoi c'est fabuleux.
Quand tu rentres d'une TCR ou de la Silk Road, t'es content de rentrer?
Ouais. Ah oui,
t'es content de retrouver le confort, carrément. La civilisation, les supermarchés, la circulation, le bruit.
Mais carrément, c'est surtout et d'autant de l'apprécier pour ce que c'est. Parce qu'en fait, il faut se sortir de ces. Alors, zone de confort ou pas, d'ailleurs, puisque quand je suis sur une Silk Road, c'est pas la zone de confort, c'est justement pour apprécier d'autant plus ce qu'est un lit, ce que c'est qu'un repas, ce que c'est qu'un restaurant, ce que c'est que de pouvoir tout ça. En fait, quand on vit dedans, on s'en rend plus compte. C'est normal. Mais, en fait, non, c'est pas normal. Enfin, c'est juste, bref, c'est bien de se sortir de moi, je peux apprécier, voilà, un lit, enfin, dans un hôtel 4 étoiles, comme mon matelas, sous ma tente, une montagne du Kyrgyzstan à 3500 mètres d'altitude. Voilà, j'ai besoin vraiment de ça et de ça pour pouvoir justement, apprécier l'un et l'autre pour ce qu'ils sont. Pour justement se sentir vivant, voilà.
Quand tu racontes tes péripéties, ce que tu fais, c'est quoi la réaction autour de toi? C'est l'incrédulité, l'admiration, l'indifférence, l'envie, voire même la jalousie? C'est quoi?
C'était surtout au début l'incrédulité. Et surtout pour quelqu'un comme moi qui après 20 ans de vie pas très saine on va dire se retrouve à faire 4000 km de vélo les gens ils y croyaient pas vraiment quoi. et puis maintenant ça fait son chemin, donc non, je suis crédible, on va dire, puisque je l'ai fait plusieurs fois. Et puis, Et puis c'est aussi ces aventures, enfin c'est sur la route en fait que surtout on s'en rend compte. Parce que bon, il y a ces courses, machin, mais il y a aussi, voilà, par exemple en Espagne, quand je suis au fin fond de l'Espagne dans un village, et que je suis en train de raconter que je viens de Paris à vélo, et puis bah les gens ils y croient pas, quoi. Et, donc c'est toujours amusant de faire ça. Et bon, après, bah, ils y croient pas, mais enfin ils sont un peu étonné, mais après je me rappelle, je suis tombé aussi sur des cyclistes qui, enfin pareil, qui font du vélo, bah pas comme moi, donc ou pas comme nous tous, hein, parce que je pense que la communauté qui écoute ce podcast, il est un peu comme nous, c'est le voyage à vélo, mais de rencontrer des cyclistes au fin fond d'Espagne qui sont en mode un peu genre, je pense un peu compact, et qui viennent te parler en roulant avec toi, et puis qui te disent « Ah, mais d'où tu viens ?» Et tu leur dis « De Paris ?» Et ah, oui. Puis surtout, en fait, quand ils voient les sacoches, qui sont quand même assez minimales, hein, ils ne peuvent pas y croire. Oui, parce que c'est ça aussi, le backpacking, un peu comme on le pratique, c'est que on vient à l'essentiel. C'est-à-dire, bah, j'ai ma tenue de vélo, et puis... J'ai tout juste une tenue civile, quoi. C'est-à-dire, la tenue civile, c'est un short, un t-shirt et basta. Et vraiment de tout ce qui prend de la place sur le vélo, finalement, c'est dédié à pallier, donc, aux éventuelles intempéries, quoi. Et du matériel, pour réparer le vélo, une chambre à air, enfin quand ou je sais pas quoi, enfin de la bouffe, enfin mais vraiment c'est minimum, quoi.
Minimum, ça n'est pas le même vélo.
Ah ben il y a rien sur mon vélo. Hein. C'est vraiment j'ai pas de change. Je suis vraiment en cycliste, et puis j'ai juste de quoi, j'ai des couches et des. Et pour pas dire, voilà, au problème d'intempéries, mais j'ai selon un peu mon projet de voyage, une tenue civile, mais c'est tout. Et je te dis, la tenue civile, c'est un t-shirt et un short qui n'est pas un short de cycliste.
Mais oui, c'est tu gardes tes chaussures de vélo? Ou une paire de tongs, peut-être?
Ouais. Ah, non, j'aime pas les tongs.
Pourquoi?
Bah, j'aime pas les trucs entre les deux pieds, mais bon.
Ah, d'accord. Ça fait 1h30, je commençais à me dire, c'est quand même un mec bizarre. Et là, je viens d'en avoir la confirmation. Tu n'aimes pas avoir des trucs entre les orteils. Ça, ouais. Ouais, ça, ça c'est quand même révélateur, hein, j'ai envie de dire.
Ouais.
Bah, je pense qu'on a fait le tour. Il y a quelque chose que tu voudrais, que tu souhaiterais ajouter, le côté préparation, je pense que c'est clair, il suffit de rouler, tu sembles rouler régulièrement, de faire des trucs, d'accumuler de l'expérience, il me semble pas nécessaire revenir là-dessus.
Oui, c'est la préparation, c'est l'expérience, voilà. C'est maîtriser son matériel, que ce soit son vélo, tout ce que t'as emmené, que ce soit la technique pour ton vélo, que ce soit ta bouffe, ta boisson, tout ça. Et puis bon, physiquement, il faut pas nuire, hein, il faut rouler pour avoir une espèce de condition physique. Et voilà, il y a que ça, enfin pour moi c'est ça, hein. Après, si on n'aime pas rouler, c'est sûr que c'est compliqué, hein, de pouvoir apprécier ce genre de choses.
Mais il fallait peut-être y penser avant, non? Si on se retrouve au départ ou après quelques jours et qu'on se dit, bah finalement, j'aime pas rouler.
Ouais.
Déjà, la réponse, elle aurait pu se trouver bien avant, parce que pour être au départ ou accumuler quelques jours, il faut déjà avoir roulé pas mal avant. Donc la réponse, elle est toute répondue, si on peut dire.
Ouais.
J'ai testé pour ta minute de solitude. Donc tu vas rester devant ton micro tout seul comme un C, si on peut dire. Moi je vais sortir et tu dis ce que tu veux. Tu prends le temps que tu veux. Ça peut être une minute, deux minutes, un quart d'heure, mais tu dis ce que tu veux et voilà. Bon, gros bisous. À bientôt.
Eh ben, à bientôt. Salut.
Allez, bonne chance.
Merci. Au revoir. Ah bah, régisseur, merci de cette minute, mais en fait, comme je te disais, je vais prendre la tangente et je vais vous faire une blague. En parlant d'ours, vous connaissez celle de l'ours? Bon, évidemment, il n'y a personne pour me répondre, mais moi, je vais vous répondre. Eh bah, elle est grosse et poilue, voilà. C'était donc la minute en question.